Je vous invite à se voir présent à l'émission Dialogue entre Congolais avec Kelly Koutel à la présentation. Bonsoir et bon début de semaine à tous. Publication vendredi dernier du rapport MAPIM des Nations Unies sur les plus graves violations des droits de l'homme commises en RDC entre 1993 et 2003. Le gouvernement congolais approuve ce rapport, mais demande à l'ONU de rendre justice aux nombreuses victimes de ces violations. Quelle analyse faire de ce rapport? Quel mécanisme mettre en place pour rendre justice aux victimes de ces violations? C'est dans ce thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission professeur Tshibangu Kalala. Il est député national de la majorité. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, madame.
Franck Diongo, président du parti politique dénommé Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP, parti de l'opposition. Monsieur Diongo, bonsoir.
Bonsoir.
Et Anneke Van Woudenberg, la réalisation du signal qu'elle n'est pas encore en ligne, elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Elle est chercheuse principale pour la RDC. À l'ONG International Human Rights Watch, vous êtes nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Mathieu Maïn et Franklin de Bukavu. Sur ce qui vous, je pense que la RDC ne doit pas se limiter à se réjouir de ce rapport, mais elle devrait prouver qu'elle a besoin et droit des réparations en commençant par punir ou faire punir les personnalités congolaises qui sont citées dans ce rapport. Sous Ambwe de Mahagi, en province orientale, les Nations Unies ont déjà publié plusieurs rapports sur les mêmes crimes commis en RDC, mais n'en sanctionne jamais les auteurs. Je pense que le gouvernement congolais devrait s'impliquer dans le processus pour que les victimes aient gain de cause. Merci de nous suivre partout en RDC, sur la fréquence FM et à travers le monde, sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78. Le rapport MAPIM des Nations Unies sur les graves violations des droits de l'homme commises en RDC entre 1993 et 2003 a été publié vendredi dernier à Genève. À travers ce rapport, la Haut Commissaire aux droits de l'homme, Navi Pillay, répertorie 617 des plus graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Des armées nationales de la sous-région des Grands Lacs et des groupes armés réguliers sont cités dans ce rapport. La RDC, par la bouche de son ambassadeur auprès des Nations Unies à New York, mais aussi le Rwanda et le Burundi, qui sont cités parmi les auteurs des atrocités commises en RDC par leurs armées respectives, n'ont pas manqué de réagir à la publication du rapport. Jack Ngoy nous en fait le résumé.
Après plus de 10 ans de conflit, il faut rendre justice aux nombreuses victimes des violations graves des droits de l'homme et mettre fin à l'impunité généralisée des personnes responsables des crimes graves, souligne ce rapport de 550 pages. 21 groupes armés congolais sont impliqués dans ces violations, ainsi que les opérations militaires par au moins 8 autres pays en RDC. Le rapport déclare aussi que 30 000 enfants ont été recrutés ou utilisés par les forces armées régulières ou groupes armés pendant le conflit. Ces enfants ont fait l'objet de violences indescriptibles comme le viol, la torture, les traitements dégradants et inhumains, la privation de leurs droits, le travail forcé et le meurtre. Par ailleurs, les attaques apparemment systématiques et généralisées ayant ciblé de très nombreux réfugiés hutu-rwandais ainsi que des membres de la population civile hutu et causé leur mort révèlent plusieurs éléments accablants qui, s'ils sont prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide, indique le rapport onusien.
Les RDC réclament justice pour les atrocités évoquées dans le rapport de l'ONU, déclare l'ambassadeur congolais auprès des Nations Unies. Mais tout en rejetant le rapport, le gouvernement rwandais, pour sa part, accuse les auteurs du dit rapport de chercher à valider la théorie du double génocide. Même réaction pour le porte-parole du gouvernement burundais qui refuse de reconnaître ce rapport destiné, selon lui, à déstabiliser la sous-région. Et pour de l'autre côté, le gouvernement angolais rejette catégoriquement les affirmations selon lesquelles les unités des forces armées angolaises auraient été impliquées dans ces actes contraires à sa mission. Professeur Tshibangu Kalala, vous êtes député national de la majorité. Comment vous avez accueilli ce rapport MAPIM de l'ONU?
Madame, d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité ce soir. Eh bien, sentiment de satisfaction. Vous savez, là, l'ONU joue véritablement son rôle. Vous savez, madame, on a créé l'ONU dans un but principal, assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale, et cette responsabilité a été confiée au Conseil de sécurité. Mais comment assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde? Il y a plusieurs procédés. Entre autres, il faut assurer le maintien de la paix et de la sécurité par le biais de la justice internationale. Eh bien, quand vous lisez par exemple le préambule du statut de Rome, le traité qui a créé la coopération internationale, on est très clair, la communauté internationale est très claire dans ce texte, eh bien, il y a eu des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes, qui ont été victimes des atrocités indescriptibles dans le monde. Et ça ne peut pas rester impuni. Donc il faut tout faire pour identifier les auteurs de ces crimes abominables, de les rechercher, de les poursuivre devant la justice et de les condamner s'il est établi qu'ils sont coupables. Mais en même temps, il faut avoir sur le volet de l'indemnisation, de la réparation des victimes qui ont subi ces dommages, mais ça peut-être qu'on parle l'autre. Donc pour moi, c'est un très bon rapport. L'ONU a joué son rôle. Ce n'est pas encore le moment d'aller dans les détails du rapport, madame, pour savoir est-ce que ce qu'on a dit là, c'est fondé, ce n'est pas fondé, etc.
On en parle tout au long du débat.
Oui, donc tout ça, on va parler, mais moi, c'est avec satisfaction, au moins encore une fois, la communauté internationale a prouvé que si elle en a la volonté, elle peut faire un bon travail dans l'intérêt de l'humanité et de tous les hommes qui habitent cette terre.
Merci, professeur Tshibangu Kalala. Fang Zongo, vous êtes président d'un parti politique de l'opposition, MLP, parti lumumbiste, mouvement lumumbiste progressiste. Vous, de votre côté, comment vous avez analysé ce rapport de l'ONU?
Merci de nous avoir associés, madame, à ce débat. Pas seulement en ma qualité de président du mouvement lumumbiste progressiste, mais également chercheur sur la question congolaise. Les éléments d'analyse à notre possession au sein de notre mouvement et à notre propre personne, c'est une prise de conscience tardive par les Nations Unies, étant donné que, au niveau des négociations des Sun City, il y a eu la prime à la violence et la communauté internationale avait parvenu au Sénat. Et aujourd'hui, nous qui avons choisi de ne pas prendre les armes, c'est une grande consolation. Donc notre mouvement soutient ces rapports, notre mouvement soutient les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme basés à Genève, étant donné que les acteurs de cette tragédie, madame, on les a cités d'après l'ordre de préséance, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, le Zimbabwe, le Burundi, le Tchad. Toutes ces armées de ce pays ont agi directement au Congo, aux côtés soit du gouvernement de Kinshasa, soit du côté des mouvements rebelles. Et ceci dit, vous avez cité 617 plus graves cas et des droits de l'homme et violation des droits de l'homme ou des droits internationaux humanitaires. Vous avez moins maximum ou dans les parages de 10 millions de tués, des violés et d'autres violations. Le drame de cette tragédie tragique, c'est que la majorité au pouvoir, il est vrai, dont certains ont accédé au pouvoir par la guerre amenée par ce pays, n'ont pas réussi à restaurer l'autorité de l'État. À ce jour, il y a violation des droits de l'homme, les femmes sont énormément violées. Aujourd'hui, beaucoup de rapports ont été rendus publics par les Nations Unies, commençant par les cas de minerais, l'exploitation illégale de nos minerais. Donc ici, le problème, c'est quoi? C'est les capacités de la majorité au pouvoir de relever de tels faits et de restaurer l'autorité de l'État, puisque les Nations Unies cherchent à aider le pays à combattre l'impunité. C'est alors que j'ai dit, pour terminer, madame, que la formule tolérance zéro va mourir de sa propre mort, puisque ça n'a pas de contenu. Je ne parle pas de la politique de bouc émissaire, où la majorité lave les mains pour attendre les tirs des Nations Unies. Il faut faire un effort personnel d'abord.
Merci, monsieur Diongo. Anneke Van Wundenberg, vous êtes chercheuse principale pour les RDC à l'ONG International Human Rights Watch. Vous avez publié aussi plusieurs rapports sur les violations des droits de l'homme en RDC. Comment votre ONG a accueilli celui des Nations Unies?
Merci beaucoup. Oui, je dois dire que j'ai lu ce rapport page après page, toutes les 50 plus quelques pages, et je dois dire que je l'ai trouvé très crédible, détaillé et aussi très choquant et horrible, parce que vraiment il y a beaucoup de détails là-dedans. des crimes graves que la population congolaise et aussi des réfugiés ont subi au Congo. Donc pour nous, je dois dire que c'est un rappel puissant de l'ampleur des crimes commis au Congo et aussi de l'absence choquante de justice. Et en fait, c'est peut-être la question clé par rapport à ce rapport. Quoi faire maintenant? Quelles étapes est-ce qu'on doit prendre pour assurer la justice pour les victimes? Mais je dois dire aussi que j'ai trouvé la réponse du gouvernement congolais le 1er octobre par la voix de l'ambassadeur Ileka Asoki et aussi ce week-end par le ministre de la Justice et des Droits Humains, Livolo Bambi. J'ai trouvé leur réponse vraiment très sage et aussi très responsable. Je viens en fait de New York où il y avait l'Assemblée générale de la Nations Unies, le président Museveni était là, le président Paul Kagame, et c'était clair que plusieurs de pays de la région de Grand Lac voudraient dénoncer ce rapport. Et le gouvernement congolais n'a pas joué ce jeu-là. En fait, ils ont répondu, je pense, d'une façon très bien le 1er octobre pour dire que les victimes ont besoin de la justice. Et que, bien sûr, ils veulent des bonnes relations avec les pays voisins, mais que la paix et la justice viennent ensemble. Et je pense que ça c'est très important et je félicite vraiment aussi les choses que le ministre de la Justice a dit ce week-end, qu'ils veulent mettre en place une chambre mixte pour juger ce crime. Et je sais qu'on va arriver là dans notre débat, mais je trouve le rapport très important. Et peut-être juste pour terminer aussi, pour moi-même, j'ai trouvé aussi choquant parce qu'en fait, il y a beaucoup de ces crimes qui continuent. Le cycle d'impunité qui continue dans la région est un cycle horrible et choquant. Et j'espère que ce rapport va mettre en place des solutions pour terminer en soi pour tous avec cette cycle d'impunité.
Merci l'année professeur Kibangu Kalala. Les pays cités dans ces rapports reflètent presque tous le rapport des Nations Unies dénonce. Comment vous analysez ça?
C'est de bonne guerre, madame. Il n'y a aucun État qui peut accepter d'avoir envoyé au Congo une armée et des soldats qui sont allés commettre des crimes abominables. C'est la négation, c'est le premier acte diplomatique de tout État. On ne peut pas s'avouer comme ça qu'on a commis des infractions graves en vue de manger du Congo. Vous savez, madame, en 2005 déjà, pour ne parler que d'un seul pays, le concernant l'Ouganda, eh bien, notre pays a gagné un procès contre l'Ouganda devant la Cour internationale de justice. La Cour a prononcé son arrêt le 19 décembre 2005. Et dans cet arrêt, la Cour a démontré noir sur blanc que les troupes ougandaises ont commis des massacres, ont tué, violé, pillé, en particulier dans le district de l'Ituri en province orientale. Et l'arrêt est là. Mais quand on plaidait cette affaire, parce que je plaidais pour le pays dans cette affaire, les Ougandais niaient absolument. Ils disaient, mais nous, nous n'avons même pas tué une seule mouche en République démocratique du Congo. Mais la Cour a dit au contraire. Donc, ce que vous avez suivi là, des délégations d'autres pays qui disent nous sommes propres, c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas vous étonner. Mais ce qui est important, madame, c'est l'étape suivante. L'étape suivante, nous allons en parler de cette émission, c'est savoir maintenant que ce rapport est là. Et je précise que ce rapport n'est pas un jugement, c'est pas une condamnation. C'est une commission d'établissement des faits, comme on dit dans le langage de droit international. C'est une commission d'établissement des faits. Les faits ont été établis, il y a des contestations, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut qu'on aille devant un juge qui va refaire l'enquête, cette fois-ci avec des méthodes d'enquête judiciaire, pour arriver à établir ces faits et confirmer ou les infirmer, et essayer de saisir maintenant les personnes physiques qui sont responsables de ces infractions. Ça, c'est l'étape suivante. Mais sur le plan diplomatique, les pays ne peuvent que nier à ce stade ici.
Oui, professeur, est-ce que vous pensez que la RDC est prête à envisager pareil démarche pour le Rwanda, le Burundi ou l'Ouganda, lorsqu'on sait que le pays est en train d'améliorer les relations diplomatiques entre... En fait, la RDC est en train de faire tout pour améliorer ses relations entre elle et le Rwanda, le Burundi ou bien l'Ouganda?
Madame, dans les relations internationales, c'est peut-être dur à le dire, eh bien, chaque pays, chaque État défend ses propres intérêts. Eh bien, il y a des milliers et des milliers, si pas des millions de Congolais qui ont été massacrés. Et notre gouvernement, notre pays doit défendre d'abord ses propres intérêts et chercher à ce que les victimes congolaises de ces crimes d'abri-là soient indemnisées. Maintenant, c'est la méthode. Comment le gouvernement peut approcher cette question? Je pense que le moment est venu, madame, d'éviter la timidité, n'est-ce pas, qu'on a constatée dans le chef du gouvernement congolais, parce que si on fait ceci, on va faire passer tel pays, voilà, etc. Je pense qu'il faut dépasser cette étape. Ça, c'est une affaire internationale, madame. Ce n'est pas une affaire du Conseil des relations bilatérales entre le Congo et le Rwanda, le Congo et l'Angola, etc. Ce sont des crimes internationaux, des crimes qui blessent la conscience universelle. C'est la communauté internationale qui a lancé ce dossier sur la place publique internationale. Et donc, nous attendons que la communauté aille plus loin. Nous allons en parler au cours de cette émission. Et moi, j'ai quelques propositions à faire à ce sujet. Mais je pense que le gouvernement congolais doit agir comme un gouvernement responsable et adulte. Il doit viser d'abord la défense des intérêts vitaux de la nation, des intérêts de notre peuple. Et on n'a pas à s'occuper des états d'âme de tel ou tel autre pays voisin ou pas tel pays. Ça, c'est mon point de vue, madame.
Merci, professeur. Le gouvernement congolais a donné sa position officielle concernant le rapport mapping des Nations Unies sur les plus graves violations des droits de l'homme commises en RDC entre 1993 et 2003. Le ministre Luzolo Bambila a évoqué au cours d'une conférence de presse qu'il a menée le week-end dernier. D'après lui, Kinshasa approuve ce rapport, cependant tout en se déclarant ouvert aux discussions de la création des juridictions spécialisées afin de juger les criminels. Le gouvernement de la RDC demande à l'ONU de ne pas se limiter à une simple dénonciation, mais de rendre justice aux nombreuses victimes de ces violations. On écoute ce propos recueilli par Jeff Ngoy.
Notre pays note avec satisfaction la reconnaissance enfin par les Nations Unies et la communauté internationale des crimes même de fois dénoncés par le gouvernement. Notre pays espère qu'à ce stade, les Nations Unies et la communauté internationale vont dépasser l'étape de la simple dénonciation pour passer à la plus véritable financière de notre justice. Quelques faiblesses du rapport du projet mapping et les non-dits. La politique de un poids deux mesures en stigmatisant les États qui ont participé directement aux conflits et violations sans citer les pays et les sociétés multinationales qui ont participé au financement de ces activités, le caractère incomplet du mapping qui sélectionne les événements et en nomme d'autres. Nous demandons donc à la communauté internationale, plus particulièrement à ceux qui ont financé ce projet mapping, de travailler étroitement avec nous pour la mise en place des mécanismes susceptibles de nous permettre de poursuivre le plus tôt résolument les auteurs de ces violences en tout lieu et de mettre un terme à l'impunité.
Monsieur Diongo, le gouvernement congolais approuve ce rapport, mais demande à l'ONU de ne pas se limiter seulement aux dénonciations. Il faudra punir les coupables de ces graves violations des droits de l'homme en RDC.
Je salue le professeur Luzolo Bambi. Nous sommes habitués avec les slogans, les discours des bonnes intentions de la majorité au pouvoir. L'air est à la tienne de la responsabilité. Je ne pense pas que les Congolais qui me suivent ce soir croient au discours des bonnes intentions de notre gouvernement. Notez, madame, que ce rapport reproduit en toute franchise le récit souvent choquant des tragédies vécues par les victimes et les témoins. Cette violation exercée contre les populations civiles au Congo a entraîné des violations graves. Et la lecture, madame, outre les violations exercées contre les populations civiles, dont les femmes et les enfants, vous avez les attaques systématiques dirigées contre les réfugiés Hutus et les civils dissimulés entre la population congolaise. Et là, il se pose un problème même de la qualification de ce fait. Il est vrai que les rapports pensent que pour parler de génocide, prononcer le terme génocide, il faudrait qu'il y ait un tribunal. Mais ici, mon problème, et le problème de tous les Congolais qui nous jouent ce soir, c'est la confiance à faire à notre gouvernement. La déclaration des bonnes intentions approuvée, nous acceptons. Mais je ne vois pas la capacité de notre gouvernement, la volonté de notre gouvernement, étant donné qu'il y a, nous n'avons pas une politique adéquate et efficace pour combattre l'impunité. Je vous donne l'état, le professeur Kibango, qui est un grand professeur de droit dans notre pays, il est député. Le Parlement de la République n'a sanctionné personne pendant les 4 ans. Aucun mandat est sanctionné, aucun ministre est sanctionné. C'est pour vous dire, la politique des boucs émissaires. On lave les bras, on lave les mains pour attendre les autres. Non, le problème est de la responsabilité. Qu'est-ce que le Congo a fait pour que de telles atrocités soient rendues publiques? 10 ans d'atrocités, mon cher.
Vous pensez que le Congo n'a rien fait?
Je ne pense pas que le Congo a la volonté. Notez, madame, étant donné que le pays accusé
ce sont les pays qui ont amené ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, au pouvoir. Vous êtes sûr qu'ils vont accepter la qualification des génocides? Vous êtes sûr qu'ils vont accepter qu'il y ait un tribunal pénal international réellement sur le Congo pour juger les auteurs des crimes? Le problème se pose en termes de discours des bonnes intentions, s'appeler des bonnes intentions, il n'y aura rien dans les actes, madame. Je vous explique les cas de la question des pièces des ressources naturelles. Les Nations Unies organisées et financées des enquêtes comme ça. Où est-ce que nous en sommes? Nulle part, madame. Toutes les enquêtes qu'on fait sur les violations des droits de l'homme localement, les cas de TBA, nous en sommes où? Le gouvernement n'est pas prêt pour l'enquête internationale. Est-ce qu'il y a l'ouverture des procès, madame? Donc je pense que les Congolais sont déçus et les Congolais ne croient pas que notre gouvernement fera quelque chose.
Merci, M. Djungo. Anneke Van Woudenberg, Chantal, que vous êtes chargeuse principale pour la RDC à l'ONG internationale Human Rights Watch. Est-ce que vous pensez, pensez-vous que la justice congolaise aujourd'hui est-elle capable de juger tous ces auteurs accusés dans ce rapport?
En fait, la réponse à ça, c'est facile. Certainement, c'est non. Le gouvernement congolais n'est pas capable de le faire parce que le système judiciaire est très faible. Et en fait, le gouvernement elle-même a dit ça. Dans la réponse de le professeur Luzolo ce week-end, il a dit qu'ils ont besoin de l'assistance pour le faire. Et d'une côté, je suis d'accord avec l'autre personne dans le débat que peut-être on n'a pas trop de confiance que le gouvernement congolais peut le faire. Mais quand même, je dois dire qu'on a vu quelques attentions qui étaient quand même traduites en action. Par exemple, le gouvernement congolais avait arrêté Gédéon Kyungu, une seigneur de guerre qui était au Katanga. Il y avait un procès qui n'était pas de tout mal, qui était un bon procès, qui a trouvé le seigneur de guerre Gédéon coupable pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. On a dernièrement le général Jérôme Kakwavu qui était arrêté par le gouvernement, la première générale au Congo arrêtée pour les crimes de viol. C'est quelque chose assez important. Mais est-ce que le gouvernement congolais a la capacité de juger des Congolais et des non-Congolais responsables pour les crimes qui étaient détaillés dans le rapport? Je ne pense pas. Mais ça, ce n'est pas totalement la faute du gouvernement congolais, parce que c'est toujours difficile de juger des personnes qui ne sont pas des nationaux, qui habitent dans des autres pays, mais qui peut-être ont commis des crimes dans le pays comme le Congo. Et c'est pour ça que je pense que cette proposition d'une chambre mixte, une chambre spécialisée, avec des juges congolais et des juges internationaux, avec le support de la Nations Unies et des bailleurs de fonds est capital. Et c'est des solutions à prendre, je pense. Je pense aussi que le gouvernement congolais a déjà pris la première étape, qui est de dire nous sommes prêts à étudier toutes les options décrites dans le rapport. Ils ont demandé une réunion à Kinshasa. Ça, c'était la réaction du 1er octobre de l'ambassadeur Ileka Tofi qui a suggéré en réunion à Kinshasa avec des experts internationaux et aussi bien sûr des experts congolais avec des bailleurs de fonds pour bien étudier quelle option à prendre et c'est quoi la voie à prendre. Et je pense que ça c'est maintenant les choses les plus importantes. Juste pour ajouter une petite chose, j'aimerais montrer aussi dans ce débat de parler un peu de cette question de terminologie et qualification. Est-ce qu'il y avait des crimes qui sont des crimes de génocide? Et en fait, le débat dans la presse était vraiment autour de ce mot « génocide ». Je voudrais juste rappeler aussi que, en fait, le rapport est très clair. Que si ce n'est pas génocide, c'est absolument clair que les crimes qui étaient commis par l'armée rwandaise étaient des crimes contre l'humanité à une échelle massive. Donc je pense que de temps en temps, on a tombé un petit peu dans ce débattement autour de le mot génocide. En fait, les choses sont très claires que c'est des crimes assez graves qui étaient commis et bien sûr la communauté internationale doit jouer leur rôle à assister le Congo pour traduire maintenant en justice les personnes responsables.
Merci à monsieur le professeur Tshibangu Kalala. On a suivi le ministre de la Justice tout à l'heure qui réagissait par rapport à ce rapport. Puis Sacha où la RDC, le gouvernement congolais approuve ce rapport, mais il constate qu'il y a quelques irrégularités dans le rapport.
Oui, madame. Moi, j'aimerais voir un peu la suite. Je crois que c'est ce qui intéresse encore plus les auditeurs de Radio Capi. Parce que.
Mais il faut d'abord commencer par penser ces irrégularités avant de voir la suite.
Bien sûr, mais les irrégularités, ce n'est pas le Congo qui va revenir sur le bien-être, encore moins la commission. Mais là, l'affaire doit être judiciarisée. Donc, il y a une commission qui a fait son travail. Il y a des lacunes, il y a des omissions volontaires ou involontaires, on n'en sait rien. Mais au moins, le dossier est là, avec des faits très graves. Vous devez savoir, madame, quand, sur le plan international, quand on rédige des textes comme ça, il faut parfois utiliser des termes généraux, que nous appelons dans le langage technique, des termes qui ont un contenu flou et variable, pour arriver à obtenir un consensus sur le texte. Donc, au lieu de dire qu'il y a génocide, on va dire, ben, ça pourrait être qualifié de génocide. Question de ramener les gens au texte et d'aller de l'avant. Donc, génocide ou pas génocide, crime de l'humanité conduite, mais les faits sont très graves, les atrocités sont d'une gravité telle qu'il faut agir, qu'on ne peut pas s'arrêter là. S'il y a des omissions, s'il y a des non-dits, s'il y a deux poids, deux mesures, il faut amener tout ceci devant le juge international. C'est là qu'on va amplifier l'enquête, qu'on va aborder les faits qui n'ont pas été traités dans ce rapport, qu'on va les autres, etc. Ça, omission ou pas omission, ça sert d'en discuter. Mais là, il faut aller devant le juge, où on va compléter le dossier. Parce que cette commission, madame, c'est une commission qui a fait son travail pour établir les faits. C'est tout. Mais non, il y a des faits qui peuvent venir s'ajouter après devant le juge. Il y aura un procureur qui va enquêter, qui va retirer certains faits, ajouter d'autres. Ça, c'est le travail qui sera fait devant le tribunal. Maintenant, c'est l'étape suivante, madame, pour faire. Je suis aussi d'avis que le gouvernement, la justice congolaise, n'est pas à mesure de traiter ce dossier. Il faut être sérieux.
Il faut faire recours à la justice internationale.
Il faut être sérieux, il ne faut pas raconter des histoires au peuple congolais. Nous n'avons pas la capacité technique, financière, opérationnelle pour organiser ce genre de procès. C'est un méga procès. Nous n'avons pas les moyens. Il faut rester collé à la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois le sujet.
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la deuxième partie de l'émission. On va y revenir, mais on va écouter d'abord ces auditeurs de Goma, quelques auditeurs habitants de Goma, j'allais dire, qui se sont exprimés sur ce rapport. Ils sont au micro de Sylvestre Kilolo.
On aurait Mankidogo, voir ce qui s'est vécu comme drame dans ce pays. À titre d'exemple, Kichanga, il y a beaucoup de Congolais qui sont morts, massivement tués, massifs tout entier. Partout, on a enregistré des morts dans les retours. Là encore, c'était au moins une tragédie, s'il faut le dire ainsi.
Quoi bon goût? À Walikale, il y a eu le Tuéri, et il y a eu même des massacres. Et suite à ça, Walikale aujourd'hui est totalement enclavé, suite au manque de leaders qui peuvent, n'est-ce pas, rappeler aux gens pour les rassembler et le faire développer.
Quel sport Karonde? Vous savez qu'il y a plusieurs écoles qui ont été incendiées, des dispensaires, des hôpitaux qui ont été détruits, des infrastructures routières qui ont été démolies, par exemple des ponts, tout ça.
Je suis l'un des grands notables au Nord Kivu. Ce rapport qui ne parle que de la vérité vécue par tout le monde à l'est de la RDC, et nous pensons que nécessairement ce rapport mérite d'être soutenu par tout le monde qui respecte les droits humains.
Franck Diongo, brève réaction par rapport à cette opposition. La population fait quelques habitants de Goma qui ont été interrogés.
Oui, madame, cette opposition de la population, c'est vrai que je vous ai dit que ce rapport reproduit en toute franchise le récit souvent choquant de la tragédie. Mais en une minute, madame, notre mouvement soutient ce rapport puisqu'il faut punir, puisqu'il faut éviter de créer une nouvelle génération qui n'aura connu que la violence comme un moyen de résoudre le conflit. C'est à cela que je pense que le gouvernement de la République, le fait que le gouvernement de la République n'a pas une politique efficace en matière même de réformes de notre système judiciaire, étant donné que même les petites infractions, nous avons un problème, le Congo reste le pays le plus corrompu de la SADC. Est-ce que pour redresser notre propre justice, il faut d'abord des étrangers, parce qu'il faut donner des réponses aux problèmes de ce rapport? Commençons par des réformes. Il n'y a aucune politique efficace. Voilà pourquoi nous estimons que toutes les solutions nous semblent spécialisées. Nous soutenons cela. Mais le problème se pose en termes de quelle est la politique du Congo en matière judiciaire. Ce sera la grande difficulté, mais l'identification des options. Vous savez que les victimes peuvent avoir des réponses à des solutions des options judiciaires et des non judiciaires pour rendre justice aux victimes. Tout cela engage un sérieux, dont l'heure n'est pas au discours des bonnes intentions. Quel événement nous a habitués. Mais c'est à l'action, madame. La population congolaise, qui est déjà dans un désespoir total, suite à l'échec de la majorité au pouvoir, puisque en fait, la population pensait qu'on pouvait construire l'espoir et défendre la justice. Mais néanmoins, aujourd'hui, je vous ai cité le cas. Est-ce pour sanctionner un mandataire, pour sanctionner un ministre, vous allez bien attendre la justice internationale.
Merci.
Il y a l'efficacité.
Merci, M. Diongo. Publication vendredi dernier du rapport Mapping des Nations Unies sur les plus graves violations des droits de l'homme commises en RDC entre 1993 et 2003. Le gouvernement congolais approuve ce rapport, mais demande à l'ONU de rendre justice aux nombreuses victimes de ces violations. Quelle analyse faire de ce rapport? Quel mécanisme mettre en place pour rendre justice aux victimes de ces violations? C'est notre thème de ce soir. Participe au débat professeur Kibangu Kalala, député national de la majorité, Franck Diongo, président du parti politique dénommé Mouvement Lumumbiste Progressiste, parti de l'opposition, et Anneke van Woudenberg, elle est chercheuse principale pour la RDC à l'ONG internationale Human Rights Watch. Quel mécanisme mettre en place pour rendre justice aux victimes de ces violations? Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la RDC a besoin d'un système judiciaire qui permette de juger les crimes perpétrés entre 1993 et 2003. Le rapport propose en outre la mise en place d'une politique holistique de justice transitionnelle. Tous les détails avec vous, Jeff Ngoye.
Que faire alors pour endiguer ce cycle de violence? Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la RDC a besoin d'un système judiciaire qui permette de juger les crimes perpétrés entre 1993 et 2003. Mais il indique que le mauvais fonctionnement des institutions judiciaires a laissé des millions de victimes sans recours et sans voix. Par conséquent, le rapport propose la mise en place d'une politique holistique de justice transitionnelle. En substance, il suggère la création d'une juridiction mixte impliquant éventuellement des tribunaux hybrides avec du personnel national et international, la création d'une nouvelle commission vérité et réconciliation, des programmes de réparation et de réforme à la fois du secteur de la justice et des forces de sécurité. Néanmoins, en demandant un assainissement de l'armée afin d'exclure les auteurs des violations, le rapport note également que le pays est toujours en proie à une violence persistante et à d'autres abus commis par les forces de sécurité.
Merci, Jeff Ngoye, pour tous ces détails. Anneke van Woudenberg, vous êtes chercheuse principale pour la RDC à l'ONG internationale Human Rights Watch. Quel mécanisme mettre en place pour rendre justice aux victimes de ces violations?
Bon, nous pensons qu'une des options qui est décrite dans le rapport Mapping de la Nations Unies est peut-être l'option à prendre. Et ça, c'est l'option d'une chambre mixte. Et en fait, le rapport Mapping aussi a dit que ça, c'est pour eux aussi peut-être l'option la meilleure de toutes les options qu'ils ont décrites. En fait, une chambre mixte, ça peut être une chambre dans le système judiciaire congolais, avec des juges et d'autres staffs nationaux et internationaux. En fait, c'est le même modèle qui est utilisé aujourd'hui pour les crimes de guerre commis en Bosnie. Donc, en Bosnie, ils ont le même modèle et ça marche assez bien avec les deux types de juges, nationaux et internationaux. En fait, c'est une chambre qui peut durer pour la future aussi. Ça peut juger des crimes de passé, comme les crimes qui sont décrits dans le rapport, avec bien sûr des personnes qui vont enquêter, des magistrats, des procureurs nationaux et internationaux. Et ce modèle aussi peut donner une crédibilité à la justice, ça peut renforcer le système judiciaire congolais et bien sûr avec aussi le support de la communauté internationale, avec les juges internationaux. Et je pense que ça sera un modèle, un mécanisme qui est très indépendants. On doit bien sûr connaître que ces crimes sont des crimes assez complexes. Ce n'est pas facile de documenter crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide et bien sûr d'y aller vraiment à les personnes qui ont commandité ces crimes. Donc je pense pour ça le système congolais a besoin d'assistance et je pense que déjà la réponse de le ministre de la Justice quand il a proposé ce type de mécanisme le week-end passé a pris une bonne étape dans la bonne direction. Je pense vraiment que ce rapport mapping est une grande opportunité pour le Congo, pour la justice et aussi pour la vérité de ce qui est arrivé. Et j'espère vraiment que le gouvernement congolais est sérieux quand ils ont proposé de lancer ce type de chambre mixte. Et maintenant, je pense que nous tous, on doit pousser la communauté internationale de le supporter. Parce qu'on a vraiment besoin de ça. Et je pense aussi que c'est leur responsabilité aussi, du gouvernement congolais et de la communauté internationale.
Merci à Anneke, professeur Chibangu. Le rapport propose la création d'une juridiction mixte, la création d'une nouvelle commission vérité et réconciliation, des programmes de réparation et de réforme à la fois du secteur de la justice et des forces de sécurité. Est-ce que ça suffit pour rendre justice à ces victimes des graves violations des droits de l'homme?
Oui, madame. Bon, ce sont des propositions. Mais personnellement, je ne suis pas tout à fait satisfait de ce type de propositions.
Vous vous proposez quoi?
Bon, les crimes sont d'une ampleur telle, madame, qu'il ne faut pas y aller par des demi-mesures, par la timidité, pour pouvoir résoudre le problème. Bon, à mon avis, l'idéal aurait été que cette affaire soit confiée à la Cour pénale internationale. Mais malheureusement, la Cour pénale internationale, selon sa compétence temporelle, elle ne peut juger que des faits qui ont eu lieu, des infractions qui auraient été commises après son entrée en vigueur, c'est-à-dire après le 1er juillet 2002. Or, le rapport en question va de 1993 jusqu'en 2003. Et donc, si la Cour pénale peut intervenir, ce n'est que pour à peu près 18 mois, une très courte période. Donc là, ça pose un problème. Bon, mais c'est toujours enquêté sur cette courte période-là, parce que ça rentre dans sa compétence temporelle, et avec des connexités dans le passé. C'est là où le problème se pose. Deux, comment un juge congolais, même avec des internationaux aussi basés à Kinshasa, je sais où, ils vont aller enquêter en Angola, au Tchad, au Rwanda, au Burundi, pour voir quels sont les militaires rwandais qui étaient au Congo pendant ce temps. Ça ne va pas avancer. Deuxième solution pour ma part, ça aurait été par exemple, nous avons déjà dans la région le tribunal d'Arusha, qui est un tribunal qui est en fait un organe subsidiaire du Conseil de sécurité nationale. Donc c'est un tribunal des Nations Unies, avec toute l'autorité des Nations Unies dans l'affaire. Là, le tribunal aura beaucoup de poids, beaucoup d'autorité et beaucoup de force soutenue par le Conseil de sécurité pour faire ce travail. On peut tout au plus chercher à étendre les compétences du tribunal d'Arusha. Et à la limite même, parce qu'ils sont déjà vers la fin de leur travail, à la limite même délocaliser ce tribunal et l'installer par exemple à Goma, dans le champ de l'action. Donc il faut que ça se fasse sous l'autorité directe de l'ONU, sous le regard vigilant du Conseil de sécurité. Là, on peut aller. Troisième possibilité, c'est le tribunal, rien un tribunal spécial, pas des histoires de chambres mixtes ici, qui vont fonctionner, avec des Congolais. Donc, un tribunal spécial sur le modèle de Sierra Leone. Vous savez, Charles Terros est jugé maintenant à La Haye, mais il est jugé devant un tribunal spécial créé par un accord spécial entre les Nations Unies et le gouvernement Sierra Leone. Bon, juge national, juge international. C'est un tribunal spécial qui siège à l'étranger, qui a un autre modèle. Ça se fait également au Cambodge, etc.
Mais moi, ça sera différent de ces juridictions mixtes, parce qu'il y aura des internationaux et des nationaux.
Ça n'a rien à voir, madame, vous allez tourner en rond. On le fait par exemple actuellement au Liban pour juger les auteurs, ceux qui ont tué le Premier ministre Hariri. On tourne en rond, madame. Il faut un tribunal créé directement par les Nations Unies. Le cas du tribunal pénal d'Arusha, il y a un deuxième qui se trouve en ex-Yougoslavie, ça, ce sont des organes subsidiaires des Nations Unies. Madame, ce rapport est fait par les Nations Unies elles-mêmes, qui nous disent qu'il y a des actes qu'on pourrait qualifier de génocide. On ne peut pas, après avoir dit cela, dire maintenant les Congolais, allez vous occuper de ça. Hein, créer des chambres mixtes, c'est du n'importe quoi, madame. Ou on veut avancer, ou on veut qu'on puisse s'enliser dans des procédures interminables. Pour moi, et c'est mon avis personnel, puisque la CPI ne peut pas s'occuper de ça à cause de sa compétence temporelle qui est très limitée, il faut un tribunal. Ça va coûter, mais s'il faut bien faire les choses, il faut y mettre le prix. La RDC doit financer cela, les Nations Unies doivent trouver l'argent, les États-Unis, l'Union Européenne, pour financer un tribunal spécial
sous l'autorité directe des Nations Unies pour qu'on ait de l'avance. Sinon, on va tourner en rond ici. Voilà mon point de vue.
Merci, professeur Fong Zongo. Vous proposez quoi? Quel mécanisme pour rendre justice à toutes les victimes des violations graves de droits de l'homme?
Madame, vous savez que nous sommes contre, nous sommes pour qu'on combatte l'impunité, nous sommes contre l'impunité. Il faut se faire. Par rapport aux générations à venir, madame, il faut éviter qu'il y ait les générations qui n'aura connu que la violence comme un moyen de résoudre les conflits. Et ceci dit, il est vrai que ce rapport, c'est un premier pas vers un processus de vérité après de la conflit. Je soutiens la proposition du professeur Chibango Kalala. Il faut un tribunal spécial qui ne dépend pas de la hiérarchisation des structures judiciaires du Congo. Parce qu'en fait, le système judiciaire congolais ne fait pas confiance à de tels crimes. Je vous donne les cas. Il y a eu les cas de Bosco Ntaganda et le système judiciaire congolais et le gouvernement congolais. Est-ce qu'on a extradé Bosco Ntaganda dont la Cour pénale internationale a cherché? Voilà une des preuves qui démontre la suffisance que les Congolais ne croient pas à la déclaration des bonnes intentions, au chapelet des bonnes intentions, au catalogue des bonnes intentions. On nous a habitués avec la formule tolérance zéro, madame. On a puni qui, quand et où? Je pense que la proposition idéale, parmi les propositions, le tribunal spécial, dans ce tribunal spécial qui ne dépend pas en termes de compétences des structures judiciaires du pays, mais aussi et surtout, je plaide en faveur d'autres procédures non judiciaires comme moyen d'indemniser les victimes. Parce qu'un pays, au-delà de la justice, peut aller à la réconciliation par une procédure de vérité réconciliation aussi.
Merci, Monsieur Diongo. On va prendre quelques réactions des auditeurs. Ils sont nombreux, vraiment très nombreux à nous écrire ce soir. Samuel Ataya Kadou qui s'en est mis en province orientale. Tout en saluant ce rapport, je souhaiterais que les auteurs aillent aux juridictions internationales pour qu'une bonne justice soit faite. Robert Baume de Bukavu, soutenez-vous en quoi ce rapport des Nations Unies sera-t-il réellement différent des autres rapports antérieurs sur les violations de droits de l'homme commises, les violations de droits de l'homme commises en RDC, s'il ne parvient pas aux actions judiciaire contre les protagonistes Augustin Mwango de Kalima ou Maniema. Je pense que ce rapport est la bienvenue car ce qui s'est passé dans notre pays, notamment à l'Est, mérite la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Venant Wadelo de Matadi au Bas-Congo, comment l'État congolais qui viole tous les droits de l'homme peut demander à l'ONU de rendre justice aux nombreuses victimes de ces violations? Je pense que la solution à cette situation devrait venir du sommet de l'État congolais que de se tourner vers les Nations Unies. Emery Moussa Galoussa Moudinga de Liège en Belgique. Je pense que la RDC ne devrait pas se réjouir du simple fait que les rapports soient publiés. Elle devrait s'engager à soutenir tous les efforts tendant à rendre justice aux victimes sans complaisance. Merci à Charles Iguene de Kalima, à Raymond Kassangala de Kinshasa, à Ange Mabonda de Mbandaka à l'Équateur, à Touambe de Maïga en province orientale, Kado de Kindo Maniema, Mouvak de Beni au Nord Kivu, Siako Major Marie de Bounia, Honorable Odiane Polaire, Serge Kamara de Bounia en province orientale et Matoumaïni Franklin de Bukavu. Kivu, nous sommes à la fin de notre émission, on ne peut pas lire toutes vos réactions. Professeur Chibangu, en conclusion.
Madame, je voudrais juste pour les auditeurs de Radio Capi pour relever qu'il y a quelques années, le gouvernement congolais avait déjà accusé le Rwanda, je parle bien, le Rwanda devant la Cour internationale de justice. Mais comme le Rwanda n'avait pas reconnu la compétence de la Cour n'a pas examiné cette affaire-là, n'a traité de droit. Mais maintenant, par ce biais-ci, si le tribunal qui sera institué, et pour moi, ça doit être un tribunal international sous l'autorité directe des Nations Unies,
merci,
on pourrait amener le Rwanda éventuellement à indemniser les victimes si jamais des soldats rwandais pourraient être
considérés comme responsables. Merci, professeur Chibango. En un mot, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de conclusion?
Je pense que les choses les plus importantes, c'est la justice pour les victimes. Nous sommes ouverts à étudier toutes les options. J'espère maintenant que le gouvernement congolais fera la prochaine étape d'organiser une réunion.
Merci
pour étudier toutes les options.
Merci, Annette. Fong Zongo, en un mot.
la population a besoin des actes, mais pas un discours de bonnes intentions, tel que le gouvernement nous a habitués.
Merci, Franck Zongo, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Rougen, Guy Maté, Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Seboudjangwe, William Lungambe, c'est la technique. Kelly Kouté vous a présenté cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radioocati.net. Rediffusion demain, 14h, heure du Kinshasa. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.
Oh, God, oh, God, oh, God.